Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence, où nous prenons le temps de penser avec gratitude à la naissance et à la mission de notre Sauveur Jésus-Christ. Le président Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Nous souhaitons du fond du cœur un joyeux Noël aux personnes qui assistent à cette veillée et à toutes celles qui la suivront plus tard. Nous saluons la présence de la première présidence, des membres du Collège des douze apôtres, ainsi que d'autres autorités générales et présidents généraux d'auxiliaires. La musique de cette veillée de Noël sera interprétée par le chœur du tabernacle et par l'orchestre de Temple Square, sous la direction de Mac Quilberg et Brian Murphy, avec Andrew Unworth à l'orgue. Le chœur et l'assemblée chanteront ensuite « Écoutez le chant des anges ». Ensuite, Russell T. Osgutorp, président général de l'école du dimanche, fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « Minuit, c'est l'heure où retentit ». Notre Père Céleste, nous sommes très reconnaissants d'être ici ce soir pour cette veillée de Noël. Combien nous sommes reconnaissants pour le don de ton Fils. Nous te remercions pour le don de sa naissance, pour le don de sa vie et pour son sacrifice expiatoire pour chacun de nous. Nous sommes reconnaissants de l'amour que nous pouvons ressentir de vous deux chaque jour. Nous prions de nous accorder ton esprit pendant cette réunion. Nous sommes reconnaissants que la première présidence soit avec nous, ainsi que les hommes que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Nous sommes impatients de les entendre. Nous les soutenons et nous prions pour eux. Et nous prions pour qu'en les écoutant, eux, ce chœur et cet orchestre magnifique, nous ayons un désir toujours grandissant de suivre l'exemple de ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant avoir l'honneur de vous adresser un discours. Le chœur chantera ensuite « What shall we give to the babe in the manger ?» Après ce chant, nous entendrons Henri Behring, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur chantera « Venez tous fidèles ». N'est-ce pas une période merveilleuse de l'année? Tant de choses nous remplissent le cœur de l'esprit de Noël. La mélodie des chants de Noël, les lumières, les décorations et les souhaits enjoués de joyeux Noël. Il y a certains mots qui, comme des cloches, résonnent dans mon âme et me rappellent la beauté et la signification de Noël. Des mots comme « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ». Et bien sûr, « Oh, quel bonheur, au loin dans l'étable, et douce nuit ». Il y a des mots qui appellent plus à la prudence et qu'il faut aussi prendre en considération. Des mots comme « Tous les Whos de Whoville aimaient beaucoup Noël ». Mais le Grinch, qui habitait juste au nord de Whoville, ne l'aimait pas. Le Grinch, personnage célèbre d'une histoire pour enfants du Dr. Seuss, avait le cœur beaucoup trop petit et il haïssait tout ce qui concernait Noël. Mais au cours de l'histoire, il change totalement quand il comprend que Noël est plus que des décorations et des cadeaux. L'histoire du Grinch est peut-être aussi inoubliable parce que, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que nous sommes un peu comme lui. Qui parmi nous n'a pas été contrarié par la commercialisation et même l'avidité pendant la période de Noël? Qui ne s'est pas senti écrasé par un emploi du temps surchargé? La pression de trouver des cadeaux, de prévoir les repas et les activités? En fait, les psychologues nous disent que pendant cette période de joie, beaucoup de gens sont tristes et déprimés. Nous savons ce que la période de Noël devrait être. Nous savons qu'elle devrait être un moment pour penser à la naissance du Sauveur, un moment de réjouissance et de générosité. Mais parfois, nous pensons tellement aux choses qui nous ennuient et nous surchargent que nous pouvons presque nous entendre dire avec le Grinch « Cela fait 53 ans que je le supporte. Je dois empêcher ce Noël de se produire. Mais comment ? » Il est vrai que nous pouvons trouver du matérialisme et de l'anxiété dans Noël. Mais il est aussi vrai que si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons ressentir le message puissant de la naissance du Fils de Dieu ainsi que l'espoir et la paix qu'il apporte au monde. Comme le Grinch, nous pouvons voir Noël d'un regard neuf. Notre famille a toujours suivi la tradition ancienne de l'Avent. À partir du quatrième dimanche avant Noël, nous nous réunissions les dimanches après-midi, nous allumions des bougies fixées sur une branche de pin, nous mangions de délicieux biscuits faits maison et nous lisions des passages d'écriture centrés sur le Christ. Nous lisions les récits de prophètes anciens qui avaient aspiré à la venue du Messie. Nous lisions les écritures qui proclament l'histoire merveilleuse de sa naissance. Chaque semaine, en chantant de beaux chants de Noël et en passant un bon moment, notre famille essayait de se recentrer sur la véritable signification de Noël. Je dois admettre que le bon chocolat chaud, le jus de pomme et les savoureux biscuits nous aidaient beaucoup à ressentir la joie de la période de Noël. La célébration de l'Avent ne fait pas partie de toutes les cultures, mais nous pouvons apprendre quelque chose de cette tradition chrétienne assez répandue. Dès cette année, nous pourrions peut-être prendre dans nos emplois du temps chargés un peu de temps pour étudier la vraie signification de Noël et y réfléchir personnellement et en famille. quand nous préparons à Noël, en méditant sur sa vraie signification, nous nous préparons à mieux connaître le Christ et son message. Je vous suggère trois choses à étudier, sur lesquelles méditer et appliquer en cette période de préparation. Premièrement, réjouissez-vous de la naissance de notre Sauveur. Nous célébrons la naissance du Fils de Dieu, le Créateur, notre Messie. Nous nous réjouissons que le Roi des Rois soit venu sur terre, qu'il soit né dans une crèche et qu'il ait mené une vie parfaite. Quand Jésus est né, il y a eu tant de joie dans les cieux qu'elle n'a pas pu être contenue. Et des armées d'anges ont écarté le voile, proclamant aux bergers une bonne nouvelle d'une grande joie, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Des rois mages furent saisis d'une très grande joie. Et quand ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent des présents. Il n'est que normal que, comme les rois mages, les bergers et les anges, nous prenions le temps de nous réjouir et de célébrer ce premier Noël glorieux. Deuxièmement, réfléchir à son influence dans notre vie aujourd'hui. Plus la période de Noël devient commerciale et affairée, plus il est facile de perdre le message sublime de la vie du Sauveur. Si vous remarquez que la planification des fêtes et la course aux cadeaux commencent à vous détourner du message de paix de Jésus-Christ et à vous éloigner de l'Évangile qu'il a prêché, prenez du recul, ralentissez un peu et réfléchissez à ce qui a le plus d'importance. Noël est un moment où nous souvenir du Fils de Dieu et où renouveler notre détermination à prendre son nom sur nous. C'est un moment où réévaluer notre vie et examiner nos pensées, nos sentiments et nos actes. Faites-en un moment de souvenir et de gratitude. Faites-en un moment de pardon. Faites-en un moment où méditer sur l'expiation de Jésus-Christ et sur sa signification pour chacun de nous personnellement. Faites-en spécialement un moment où vous renouvelez votre engagement de respecter la parole de Dieu et d'obéir à ses commandements. En faisant cela, nous l'honorons beaucoup plus que nous ne le pourrions jamais avec des lumières, des cadeaux ou des fêtes. Troisièmement, attendre sa venue avec constance. Les disciples de l'époque de Jésus-Christ attendaient avec impatience le moment où il reviendrait. Pour eux, la condition mortelle était un moment de préparation et de progression, de criblage et de raffinage, un moment où préparer leur lampe pour le retour de leur Sauveur bien-aimé. Frères et sœurs, 2000 ans plus tard, nous sommes aussi ses disciples. Nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. L'expression « dernier jour » est significative. Nous vivons et servons dans une période qui précède le retour triomphant du Seigneur. Nous avons la tâche de nous préparer et de préparer le monde pour la venue en gloire du Messie. Peu après son ministère dans la condition mortelle, le Christ a dit à l'apôtre Jean, « Oui, je viens bientôt. » Et Jean a répondu, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Nous vivons à la 11e heure avant la venue du jour de notre Seigneur. Attendons donc avec impatience ce jour béni où le Roi des Rois descendra à un signal donné, supprimera la mort, séchera les larmes et ouvrira une nouvelle ère de paix, de joie et de connaissance. La période de Noël est généralement un moment où l'on se tourne vers le passé, où l'on célèbre la naissance de notre Seigneur, mais il me semble que ça doit être aussi un moment où regarder vers l'avenir. Regardons vers l'avenir. Préparons-nous pour le jour béni où le Seigneur reviendra. Soyons aussi sages que ces anciens qui attendaient sa venue. Nous, ses disciples, ayons dans le cœur et l'esprit les paroles de Jean. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Si nous cherchons ce qui ne va pas dans la période de Noël, nous le trouverons. Comme le Grinch, nous pouvons grommeler et nous plaindre, devenir froid et cynique concernant ce que nous voyons autour de nous. Mais si nous cherchons le bien, nous pouvons voir cette période de l'année avec un regard neuf, et pourquoi pas avec un regard d'enfant. Le Grinch a vu ce qu'il y a de bon dans Noël quand il a appris à regarder au-delà des décorations mondaines. Si nous faisons de même, nous pouvons proclamer avec le Grinch. Peut-être que Noël ne vient pas d'un magasin. Peut-être que Noël, peut-être, signifie un petit peu plus. Notre cœur ne grandira peut-être pas de 3 tailles comme celui du Grinch, mais il changera. Nos yeux verront les miracles autour de nous, à Noël et tout au long de l'année. Je prie pour que, pendant cette période de Noël, nous voyons la pureté de l'histoire de la naissance de notre Sauveur, ayons une gratitude sincère pour sa vie, ses enseignements et son sacrifice salvateur. Puisse cette gratitude nous pousser à renouveler notre détermination de le suivre. Puisse-t-elle aussi nous aider à nous rapprocher de notre famille, de notre Église et de nos semblables. Et puissions-nous attendre avec constance ce jour béni où le Christ ressuscité reviendra sur la terre comme notre Seigneur, notre Roi et notre Sauveur béni. Je prie pour que chacun de vous ait une période de Noël bénie et joyeuse. Je vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Needs and smiles. Je suis reconnaissant de cette occasion de nous accueillir à cette célébration de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Des siècles avant sa naissance, le prophète Ésaïe a parlé de lui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce petit enfant, né dans une étable, avec une crèche pour berceau, était le don d'un Père céleste aimant. Il était le Rédempteur du monde promis, le Sauveur de l'humanité, le Fils du Dieu vivant. Avant de venir sur la terre, dans la mortalité, le Créateur de la terre, sur laquelle nous vivons, était auprès de son Père. Jean, le grand apôtre, nous donne une idée de l'importance de cet enfant dans les hauts lieux d'où il venait. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Pourtant, il est venu sur la terre dans d'humbles circonstances. Enfant et jeune homme, il a travaillé comme charpentier avec Joseph à Nazareth. Pendant son ministère mortel, il a parcouru les routes poussiéreuses de la Palestine, guéri les malades, ressuscité les morts, enseigné son évangile aux gens qui le rejetaient, donné sa vie sur la colline du Calvaire. Il s'est levé le troisième jour, premier acte de la résurrection, afin de rompre les liens de la mort pour nous tous, devenant ainsi les prémices de ceux qui sont morts. Mais surtout, le Sauveur dont nous évoquons la naissance à cette époque de l'année, a payé le prix de tous nos péchés. Et longtemps avant la naissance de notre Seigneur, le prophète Ésaïe a vu le don inestimable du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et nous a donné cette description de ce que le Sauveur a fait pour nous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ceux qui ont ressenti cette paix et cette guérison ont le cœur plein de gratitude, de même que ceux qui les aiment. Ma femme et moi lisons des messages et admirons des photos envoyées par deux de nos petites filles qui sont en mission en Amérique du Sud. Elles nous envoient des photos de gens souriants, dont le visage brille de joie. Mes petites filles envoient des messages d'amour et de reconnaissance pour les effets du sacrifice expiatoire dans la vie des gens qu'elles ont instruits et qu'elles ont vu transformés par leur choix de suivre l'exemple de notre Sauveur, de se faire baptiser et de recevoir le don du Saint-Esprit. Nous, saints des derniers jours, nous sentons notre cœur qui déborde de gratitude pour notre Père aimant et pour son Fils bien-aimé. Nous sommes reconnaissants de ressentir cette bénédiction grâce à la foi d'un garçon de 14 ans, Joseph Smith. Sa prière, un matin de printemps 1820, nous a permis de recevoir le témoignage certain que le Père, le grand Elohim et son Fils, Jéhovah, vivent et nous aiment. Ils lui sont apparus et lui ont parlé en plein jour. Et ils l'ont appelé par son nom. Le don de cette glorieuse assurance que nous sommes connus et aimés peut nous soutenir dans les épreuves que la vie ne manquera pas à nous apporter. Nous ne devrions jamais nous sentir seuls. Nous ne devrions jamais perdre l'espoir. J'ai vu cela il y a quelques années, alors que je rendais visite à ma tante âgée dans une maison de retraite. Elle était veuve. Son grand âge ne lui permettait plus de prendre soin d'elle-même. Je la connaissais depuis tout petit, mais elle ne m'a pas reconnu, ni les autres membres de la famille, dans le salon plein de monde de la maison de repos. Je regardais son visage, m'attendant à y voir la souffrance, de la solitude et du vide. Pourtant, ce visage brillait d'amour et de joie. Sa voix avait l'intonation heureuse dont je me souvenais. La plus grande partie du temps où j'étais avec elle, ce jour-là, elle nous regardait aimablement lorsque nous nous parlions. Puis régulièrement, elle répétait, avec un sourire radieux, ces six mots, comme s'ils faisaient partie de la conversation. Je sais que mon Rédempteur vit. Il me semblait que la joie et la reconnaissance, exprimées par sa voix, croissaient chaque fois qu'elle répétait cette déclaration. Je ne connais pas toutes les sources de ce miracle de paix dans sa vie, mais j'en connais une. Depuis toute petite, elle était allée aux réunions de Sainte-Seine. Elle avait incliné la tête et entendu les paroles de la prière à notre Père Céleste. D'innombrables fois, elle s'était engagée à prendre sur elle le nom du Fils, à se souvenir toujours de lui et à garder ses commandements afin d'avoir son esprit avec elle. Ainsi, alors que les années qui passaient avaient dépouillé sa vie de tant de choses qui lui avaient donné de la joie, elle avait gardé les dons divins que nous ressentons au moment de Noël. Elle se souvenait de son Rédempteur. Elle savait qu'il vivait. Elle ressentait son amour. Et elle sentait son amour pour tous les enfants de notre Père Céleste, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur situation. En quittant sa présence souriante, je me suis rendu compte qu'elle nous avait transmis le don qu'elle avait reçu. Elle connaissait la source de la paix qu'elle ressentait. Et dans sa gratitude et son amour pour le Sauveur, elle voulait que nous ayons part avec elle cette bénédiction. J'étais allé pour la voir pour la réconforter, et j'étais reparti réconforté. Tel l'esprit de Noël qui met dans notre cœur le désir de donner de la joie à autrui. Nous avons envie de donner, et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons reçu. La célébration de Noël nous aide à tenir notre promesse de nous souvenir toujours de lui et de ses dons pour nous. Et ce souvenir suscite en nous le désir de lui faire des cadeaux. Comme le chœur vient de chanter, il nous a dit que ce que nous pouvons lui donner pour lui apporter de la joie, premièrement, par notre foi en lui, nous pouvons lui offrir un cœur brisé et un esprit contrit. Nous pouvons nous repentir et contracter avec lui des alliances sacrées. Parmi les gens qui m'entendent, il en est qui ont ressenti son invitation à la paix que procure son évangile, mais qui n'ont pas encore accepté. Vous lui procureriez de la joie si vous faisiez le pas pour aller à lui pendant que c'est possible. Deuxièmement, vous pouvez lui offrir le cadeau de faire aux autres ce qu'il ferait pour eux. Nombre d'entre vous avaient déjà fait cela et ressenti combien il l'apprécie. C'était peut-être une visite à une veuve solitaire ou alors la participation à une action pour aider les nécessiteux. Dans le livre de Matthieu, on trouve une longue liste de possibilités. Nous y lisons les paroles de notre Rédempteur que nous espérons tous entendre et prononcer lorsque nous le verrons après cette vie. Les justes répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi le répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Par ces paroles, le Seigneur indique clairement quel présent nous pouvons lui faire par gratitude. Chaque acte de gentillesse envers qui que ce soit devient une gentillesse envers lui, parce qu'il aime tous les enfants de notre Père Céleste, et parce que cela lui apporte de la joie, cela apporte aussi de la joie à son Père, à qui nous devons une reconnaissance incommensurable. Pendant ce temps de Noël, vous serez nombreux à trouver des moyens de nourrir ceux qui ont faim. Ce faisant, vous apporterez de la joie au Seigneur. Il nous a toutefois enseigné qu'il existe un moyen de donner un présent encore plus précieux et durable. Il a dit, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La plus grande de toutes les bonnes actions que nous puissions faire pour lui consiste à orienter ce que nous aimons et servons vers lui. Seule source de vie éternelle. Le don le plus précieux que je puisse offrir est mon témoignage du Sauveur. Je témoigne qu'il est né de Marie, lui, le Fils de Dieu, et qu'il a vécu une vie parfaite. Par intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, il a rétabli son évangile sur la terre et donné les clés de sa prêtrise à ceux qui les ont transmis jusqu'à ce jour béni. Je sais, par l'Esprit, que Thomas S. Monson détient ces clés de nos jours et qui les exerce. Je vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction. Je suis reconnaissant des exemples d'amour, de foi et de service que vous me donnez, qui m'inspirent et apportent de la joie dans ma vie. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Si beau. Nous remercions le chœur du Tabernacle et l'orchestre de Temple Square de leur belle musique et chacun de vous d'être ici ce soir. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Douce nuit ». L'assemblée se joindra au chœur pour chanter la troisième strophe. Ensuite, Jean Stevens, première conseillère dans la première présidence générale, dans la présidence générale de la primaire, fera la prière de clôture.
Mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une certaine surprise que je me rends compte qu'une entière, une année entière a passé depuis la réunion spirituelle, la première présidence de 2009. Il semble que le temps passe de plus en plus vite au fil des années. En approchant de cette époque spéciale et sacrée, j'ai repensé au Noël passé. Quand je remonte les années, il me semble évident que les Noëls que je me rappelle le mieux, les Noëls qui ont le plus touché mon cœur, ce sont ceux qui ont été remplis d'amour et de générosité et de l'Esprit du Sauveur. Je crois que cela doit être vrai pour nous tous, quand nous rappelons les Noëls qui nous ont le plus marqués. Il faut un effort conscient et de la planification pour introduire l'esprit de Noël dans notre cœur et dans notre foyer. Mais c'est tout à fait faisable. Chaque année, mes lectures de Noël m'apportent l'esprit de cette période. Je lis toujours les trois mêmes textes, et je ne me rappelle plus depuis combien d'années je le fais. Je relis un tout petit livre intitulé « The Mansion » de Henry Van Dyke. Ce message me touche toujours profondément. Je lis aussi le classique intemporel de Dickens, Un chant de Noël. Qui ne serait pas inspiré et instruit par les changements qui se produisent chez Ebenezer Scrooge pendant qu'il est instruit par les esprits des Noëls passés, présents et futurs? Et enfin, je lis le deuxième chapitre de l'Évangile de Luc qui raconte la naissance du Sauveur du monde. Cette année, pendant que jetais un coup d'œil à mon grand recueil d'histoires, de poésie, de chants de Noël, j'ai relu une histoire de John B. Madison, fils, où il raconte quelque chose qui est arrivé il y a 65 ans, en précisant que ça a été son Noël le plus mémorable. J'étais touché en lisant l'expérience émouvante qui était la sienne. Et j'ai donc eu envie de vous la raconter ce soir, en espérant qu'elle engendrera chez vous aussi l'esprit de Noël. À Noël de 1945, John Matheson faisait partie de l'armée d'occupation à Francfort, en Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale s'était terminée environ 7 mois plus tôt, mais pendant le conflit, la ville de Francfort avait subi de nombreuses destructions. La majeure partie de la ville était en ruine. Beaucoup de maisons qui étaient restées indemnes avaient été réquisitionnées pour loger les militaires américains. John et deux autres officiers vivaient dans une maison de 2 étages qui aurait facilement pu abriter 3 familles. Chaque jour de la semaine, John et les 2 autres officiers allaient à leur bureau. À leur retour le soir, trouvaient les lits faits et la maison impeccablement nettoyée par une vieille Allemande qui avait été engagée par l'armée américaine comme femme de charge pour un certain nombre de maisons du quartier. Il ne voyait cette petite dame frêle que de temps en temps, occupée qu'elle était à ses tâches. Leur conversation avec elle était limitée, parce qu'elle ne parlait pas anglais et que leur allemand était rudimentaire. Mais il lui montrait, grâce à une espèce de langage des signes et par des sourires, qu'ils étaient satisfaits de son travail. John allait chaque semaine au PX cherchait sa ration de sucreries, de savon et de menus objets. Il lui arrivait de maugréer au sujet du peu de choix qu'il avait. Mais elle achetait toujours tout ce qui lui était permis et mettait ce qu'il avait de trop dans son armoire. Comme Noël approchait, John se dit qu'il devrait faire un cadeau à la femme de charge. Alors, puisant de l'abondance son armoire, il remplit un grand carton de sucreries, de savon et de boîtes de jus de fruits. Il savait que dans le système de troc qui se pratiquait parmi les Allemands, le cadeau qu'il lui faisait, là, valait beaucoup, beaucoup de dollars. Alors qu'à lui, cela ne coûterait pratiquement rien. Sachant qu'elle ne travaillerait pas le jour de Noël, John, au moment de partir pour le bureau, le 24 décembre, mit bien en vue sur la table son carton cadeau et des vœux de Noël. Toute la journée, il pensa à l'insuffisance au cadeau généreux qu'il avait fait. La femme de charge serait comme une héritière au milieu de la pauvreté de son voisinage. Il se dit qu'elle avait bien de la chance. Elle lui serait très redevable, à lui, le généreux Américain. Et pourtant, son cadeau, il n'avait pas fait par compassion, mais simplement par pitié et pour sa satisfaction personnelle. En approchant de la maison, dans l'obscurité, de ce soir de décembre, il vit la faible lueur de la lampe filtrée par la fenêtre. La maison était silencieuse. Il entra et vit son cadeau et la destinataire était partie. Mais, dans la lueur de cette lampe, il vit sur la table son petit mot de Noël et le cadeau qu'elle lui avait fait. Il ne s'était pas attendu à recevoir ce cadeau. Mais il y en avait un, tout ce qu'elle pouvait se permettre, et fait dans l'esprit de Noël. Qu'est-ce qu'une pauvre petite vieille pouvait bien donner? Elle pouvait donner dans sa pauvreté et du fond de son cœur ses souvenirs les plus chers de sa vie bien-aimée d'antan. Et elle pouvait donner l'étoile de Noël. Sur cette table faiblement éclairée, à côté de son joyeux Noël soigneusement écrit, il y avait 10 vieilles cartes postales illustrées et cornées de Francfort, telles qu'elles étaient avant que la guerre l'ait autant dévastée. La femme de charge avait posé les cartes de champ, les avait attachées entre elles, de sorte que chaque couple de cartes formait une pointe et que le 10 tout ensemble forme l'étoile de Noël. Elle avait peu à donner. En fait, c'était tout ce qu'elle avait. John Matheson allait encore connaître beaucoup de Noël. Mais l'étoile de Noël, cette petite femme de charge, brilla avec un grand éclat sa vie durant. Il dit que son étoile de Bethléem avait implanté en lui l'esprit de Noël et lui avait enseigné le sens véritable de l'amour et du don. Frères et sœurs, cette saison de joyeuse nous apporte à tous une quantité de bonheur qui correspond à la mesure dans laquelle nous avons tourné notre esprit, nos sentiments et nos actes vers le Sauveur, d'où nous fêtons la naissance. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, cette saison même de Noël, pour nous reconsacrer tous aux principes enseignés par Jésus-Christ. Que ce soit un temps qui illumine les yeux des enfants et met du rire sur leurs lèvres. Que ce soit un temps pour éclairer la vie de ceux qui vivent dans la solitude. Que ce soit un temps pour rassembler notre famille, pour nous sentir proches de ceux qui nous sont proches et aussi de ceux qui sont absents. Que ce soit un temps de prière pour la paix, pour la préservation de principes libres et pour la protection des êtres qui sont loin de nous. Que ce soit un temps pour nous oublier et trouver du temps pour les autres. Que ce soit un temps pour abandonner ce qui n'apporte rien et pour mettre l'accent sur les vraies valeurs. Que ce soit un temps de paix, parce que nous avons trouvé la paix dans les enseignements du Seigneur. Et surtout, que ce soit un temps pour nous rappeler la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ, afin de prendre part au chant des anges, à la joie des bergers et à l'adoration des mages. Mes frères et sœurs, puisse l'esprit d'amour qui apparaît avec Noël remplir notre foyer et notre vie et s'y attarder longtemps après que l'arbre sera dégarni et la lumière rangée pour une année. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen.
Notre Père Céleste, c'est avec beaucoup d'amour et de gratitude que nous venons à toi à la fin de cette soirée de Noël. Nous avons ressenti ton esprit. Nous avons été édifiés par tout ce qui a été dit. Nous te sommes très reconnaissants de notre cher prophète, le président Manson, et de ses conseillers, frère Eyring et frère Urdorf. Merci pour les messages qui nous ont indiqué comment mieux célébrer cette période de Noël. Nous sommes si reconnaissants d'être ici ensemble pour fêter la naissance de ton fils. Ce jour nous a rapprochés de toi et de ton fils. Père Céleste, nous prions pour que notre célébration soit sincère, pour que nous fêtions sa naissance, sa vie, sa mission et son sacrifice expiatoire avec pureté de cœur. À cette période où nous offrons des cadeaux, nous te remercions pour le grand don que tu as fait au monde, celui de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Veux nous aider à nous souvenir de lui, pas seulement à cette période de l'année, mais toujours. Puisse notre vie refléter notre amour pour lui et notre désir de le servir. Cher Père, à la fin de cette soirée, nous prions pour que nous partions avec un plus grand témoignage de ton Fils et pour que sa promesse de paix et d'espérance soit en notre cœur. Nous prions pour que ton esprit reste avec nous, afin qu'il nous rapproche de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.